Hommes et femmes connus et méconnus de Savoie, une chronique de Pierre Cardona.
Chères auditrices et auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons aller à la découverte d'un nouveau personnage, presque oublié, mais qui est à l'origine d'un ouvrage qui, aujourd'hui, nous est utile presque chaque jour. C'est aussi grâce à lui que la langue française est si riche, et on ne peut que le remercier. C'est Claude Favre de Vaugelas. Le 6 janvier 1585, c'est la fête à Meximieux, dans l'actuel département de l'Ain, qui fait partie alors des États de Savoie. En effet, Benoît Favre de Meximieux épouse Antoine Favre de Pérouges. Claude, son second fils, ouvre les yeux à Vaugelas en fin d'année. Ce nom de Vaugelas vient du petit domaine que sa mère a apporté en dot. Il sera en effet un jour baron de Pérouges et seigneur de Vaugelas. Il vient à Annecy où réside son père, alors président du conseil du Genevois, et fait de très brillantes études au collège de la ville. Il voyage beaucoup en Italie, notamment où il rencontre Claude Gaspard Bachet de Mézy-Rayac, son parent, mathématicien, théologien et poète. Par la suite, son père l'envoie à Paris et, pensionné par le roi, il entre au service des différentes familles princières, dont celle de Gaston d'Orléans, puis dans la maison du duc de Nemours, Henri de Savoie, pour qui il est officier de la domesticité. Pélisson nous dit que Claude de Vaugelas, ce petit nobliot, est un homme agréable, bien fait de corps et d'esprit, de belle taille. Il a de beaux yeux bleus, des cheveux noirs, le visage rempli et coloré. Il est aussi fort dévot, civil et respectueux jusqu'à l'excès, particulièrement envers les dames. Que voilà un beau portrait pour celui que d'autres auront baptisé le tyran des lettres. En 1605, Claude Favre de Vaugelas a 20 ans. Et il entre à l'Académie Florimontane. Lui, ce natif de l'Ain, rencontre Honoré d'Urfé, qui a acheté la terre de Sénoumois-en-Bugey pour s'y retirer. En 1618, Claude a 33 ans. Il est à Paris car il désire s'adonner à l'étude de la littérature. Son goût pour le français et sa facilité à parler cette langue le fait remarquer par le cardinal de Richelieu. En 1642, s'inspirant des statuts de l'Académie Florimontane, il travaille à la création de l'Académie française voulue par Richelieu et dont il est membre, et dirige la rédaction du dictionnaire qui parut en 1694, soit longtemps après sa mort. Il rédige alors ses remarques sur la langue française, utiles à ceux qui veulent bien parler et bien écrire, publiées en 1647. Le titre est explicite et ce remarquable ouvrage connaît 20 éditions. Fait de lui le véritable codificateur de la grammaire française, il n'en tire ni gloire ni argent et travaille assidûment à ce dictionnaire de la langue française. Claude Favre de Vaugelas, qui parle couramment l'italien, l'espagnol, veut privilégier le français, c'est-à-dire l'usage contre le latin. Il peut paraître surprenant que la langue française soit ainsi codifiée, et pour l'autant par un savoyard. Mais il n'y a rien de surprenant à cela, lorsqu'on sait que le latin est abandonné en Savoie à la suite de l'obligation du traité de Villers-Cotterêts faite par François Ier, alors suzerain des États savoyards, et que le français parlé depuis longtemps dans le duché est devenu la langue officielle sous le règne du duc Emmanuel Philibert au milieu du XVIe siècle. En 1650, Claude Favre de Vaugelas meurt à Paris dans une grande pauvreté, oublié par ses contemporains. C'est tout juste s'il a le temps de publier les 6 premières lettres du dictionnaire de l'Académie, le reste ne sera publié que 44 ans après sa mort. Après sa disparition, une traduction française est également publiée, c'est la biographie rédigée en latin de la vie d'Alexandre. Lucide, dans son testament, il expose en termes choisis sa situation. Comme il pourrait se trouver quelques créanciers qui ne seraient pas payés quand même, on aurait réparti le tout. Dans ce cas, ma dernière volonté est qu'on vende mon corps au chirurgien le plus avantageusement qu'il sera possible et que le produit en soit appliqué à la liquidation des têtes dont je suis comptable à la société, de sorte que si je n'ai pu me rendre utile pendant ma vie, je le sois au moins après ma mort. À Chambéry, il fut construit un monument en souvenir de son père et le nom de Vaugelas attribué à un lycée. Mais C'est ainsi que les élus donnèrent le nom du père et du fils à deux rues, qui se croisent au cœur de la cité, ainsi qu'un groupe scolaire qui porte le nom de Vaugelas. Cette chronique est tirée d'un livre de Michel Germain, président de la Société des auteurs savoyards, et celui de Pierre Hoffmann, auteur du livre « Ces Savoyards qui ont fait l'histoire ». Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et surtout à une prochaine fois.